Bonsoir. Alors, moi, je vais vous parler des semences. Je pense qu'on va retrouver beaucoup de choses de ce qu'a dit Geneviève, justement, parce que c'est un bon exemple d'application. Alors, si on s'intéresse à l'histoire de l'agriculture et celle des semences, il y a deux grandes périodes, si vous voulez. Il y a une période qui dure environ 10 000 ans, hein, c'est celle qui date du néolithique. Hein, et il y a une période tout à fait récente qui fait une centaine d'années et qui s'est en plus beaucoup accélérée après la Seconde Guerre mondiale. Et elle correspond, pour l'agriculture, à la modernisation de l'agriculture, à l'industrialisation de l'agriculture. Dans la première période, si on regarde les semences maintenant, on est sur des semences paysannes. On ne dit pas le mot, mais c'est tellement évident pour la simple raison que ce sont les paysans qui produisent leurs propres semences avec un acte qui est connu de tout le monde, c'est qu'on prélève une partie de la récolte et on s'en sert comme semence pour les moissons, les moissons futures. Donc c'est le paysan qui fait ça et avec des échanges avec les voisins, etc. Alors ce qui caractérise, il y a plusieurs caractéristiques de ces semences paysannes. Il n'y a pas d'ordre, hein, mais je dirais la première, c'est que ce sont des semences, des variétés qu'on appelle des populations. C'est-à-dire que ce sont des variétés qui ont une très grande diversité biologique. Si vous voulez saisir ce que c'est qu'une population, c'est pas compliqué. Vous vous regardez, vous avez tous le même génome, mais pourtant vous pouvez constater que vous n'êtes pas tout à fait semblables. Hein, c'est une population de blé, c'est ça. Hein, ils se ressemblent, mais il y a énormément de diversité génétique à l'intérieur. Alors ça, c'est une première caractéristique. La deuxième caractéristique correspond tout à fait à ce que vient de dire Geneviève, à savoir que ils ont toujours été considérés comme des communs et régis par des droits d'usage collectif. Et c'est ça qui a fait ce que sont devenues, disons, toutes ces semences-là. Et avec ces pratiques qui consistent à utiliser dans des millions de champs, des millions de paysans, des semences qu'on reproduit comme ceci, nos ancêtres, enfin nos anciens, nous ont légué une biodiversité cultivée d'une prodigieuse richesse. Ça, c'est 10 000 ans. Et en l'espace de moins de 100 ans, on bascule complètement, hein, puisque avec la modernisation de l'agriculture, l'introduction des variétés au rendement, et après la guerre, surtout après la guerre, les hybrides F1, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, là, eh bien, la pratique des paysans, qui consiste à ressemer une partie de leur récolte, eh bien, elle disparaît. Et dès les années 60, hein, c'est donc très, très rapide, dès les années 60, les semences paysannes ont quasiment déserté les champs des paysans. Il n'y a quasiment plus. Alors ça, il faut comprendre aussi le contexte. On était à la fin de la guerre, il fallait reconstruire le pays, il fallait nourrir la population. Et là, c'est l'État central qui a pris le taureau par les cornes. C'est à ce moment-là que l'INRA intervient, le grand chef d'orchestre. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés à nourrir la population, une agriculture très productive, avec bien sûr beaucoup d'intrants, tout ça. On s'est rendu compte au bout de quelques temps que ça ne marchait pas aussi bien qu'on avait pu le croire. Et voilà, alors ça, c'est l'histoire récente. Et je vous disais tout à l'heure, les semences paysannes sont des semences de grande diversité génétique. Les semences industrielles modernes sont des clones, sont toutes semblables. Il y a ce genre de différence. Alors, si vous voulez, ça se passe, ça continue, ces hybrides, cette disparition des semences paysannes ne fait pas tellement de bruit. Hein, ça se passe. Et ça continue. Et là, il y a un grand choc qui arrive, c'est au milieu des années 90, c'est l'introduction des OGM qui débarquent en Europe. Ils ont déjà débarqué aux États-Unis, mais ils débarquent chez nous. Et là, c'est un choc parce que il y a, disons, des paysans quand même qui ont continué à cultiver ces variétés, qui se disent avec ça, avec des brevets sur les plantes, c'est la première fois que ça arrive, avec ces brevets, on va plus pouvoir émettre de nos semences. Et disons qu'ils créent un mouvement très très informel. Ils essayent de retrouver des variétés anciennement cultivées par des anciens, si vous voulez. Ils vont aussi dans les banques de l'INRA, choses comme ça. Ils essayent de remettre tout ça en culture, très informel. Bon, ils se connaissent plus ou moins. Et en 2003, ils lancent un appel. Ils se retrouvent à 350 à côté de chez nous, à Ville, là, et c'est à ce moment-là que se crée le réseau des semences paysannes. Pour ceux qui ont participé à cette réunion, moi je n'y étais pas, ils nous ont dit que c'était une émotion très intense parce qu'ils pensaient qu'ils étaient tout seuls, ils se sont retrouvés avec une dynamique très très importante. Alors, ça, c'est le mouvement, si vous voulez, par rapport aux OGM, c'est essayer de sauver ces semences paysannes. Et l'autre mouvement, ça vous le connaissez mieux, c'est celui du combat anti-OGM. Hein, et dès les années 80, enfin au milieu des années 90, c'est la Confédération paysanne menée par Bouvet, entre autres, qui commence les premières neutralisations. On obtient un premier moratoire européen, je crois que c'est 99 jusqu'à 2003-2004. Et après, comme on sait que ça va continuer, bien, à la création du collectif des faucheurs volontaires, il y a des fauchages, des poncées, et on peut dire que les OGM sont rentrés dans le débat public. Hein. Et ce qui est intéressant, enfin, ou amusant, disons, c'est que 2003, c'est à la fois la création du réseau des semences paysannes et à la fois la création du collectif des faucheurs volontaires. Je cite toujours cette coïncidence qui, je pense, est peut-être un peu plus qu'une coïncidence. Et tout ça pour dire que c'est un peu le même combat. Hein. On est contre les OGM et pour les semences paysannes. Alors là, je vous ai parlé de deux acteurs. Hein, ceux qui sont ceux qui ont défendu les semences paysannes, le réseau des semences paysannes. À côté de ça, c'est les collectifs anti-OGM. Il en existe un petit peu partout. Alors bien sûr, il y a d'autres acteurs. Hein. J'ai parlé de l'État tout à l'heure. Si vous voulez, pendant les 30 Glorieuses, c'est à peu près ça. D'ailleurs, ça correspond aux dates qu'a donné Génie tout à l'heure. Pendant les 30 Glorieuses, c'est l'État qui mène la danse. Et à partir des années 80, là, il y a des grands changements et c'est les firmes qui prennent le dessus. L'État se désengage de plus en plus de ses fonctions, régaliennes ou pas, et disons que c'est les firmes. Et les firmes développent de véritables stratégies, alors on peut le dire, des stratégies d'appropriation des vivants et en particulier l'appropriation des semences. Alors je vous cite rapidement ces trois stratégies. Hein, on peut en imaginer d'autres, mais déjà avec ces trois-là, ça fait pas mal. Alors, il y a ce qu'on peut appeler la confiscation biologique. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiscation biologique? Ben, ça consiste à mettre sur le marché des semences qui poussent bien, qui donnent des bonnes récoltes, à condition d'y mettre les intrants qui vont avec quand même, mais elles ne sont pas reproductibles, elles ne sont pas stériles. Elles ne sont pas reproductibles dans la mesure où si vous prélevez une partie de la récolte pour faire la semence l'année suivante, ben, ça marche pas bien. Et à partir du moment où les hybrides de maïs, notamment, sont arrivés sur le marché, ben les gens ont abandonné leur population de maïs. Alors heureusement, il y en a quand même quelques-uns qui en ont conservé. Alors ça, c'est la confiscation biologique. C'est d'une efficacité redoutable. Il n'y a pas besoin de mettre un flic derrière chaque paysan. Ça se fait tout seul, hein, puisque ça ne marche pas, si vous voulez. Alors la deuxième stratégie, c'est la stratégie de la confiscation juridique. C'est-à-dire qu'on va utiliser le droit, et notamment le droit de la propriété intellectuelle, pour devenir propriétaire de ce qu'était précisément un commun. Et là, alors, il y a les brevets, bien sûr. Les brevets, il y en a de plus en plus. Et la date fatidique, hein, Geneviève l'a dit, c'est 80. 80, c'est l'année où la Cour suprême des États-Unis autorise le brevetage du vivant. Et là, c'est le départ en flèche des biotech pour l'agriculture, aussi pour la pharmacie, la médecine et tout ça. Bon. Et alors, ça, c'est la confiscation. Alors, donc, par le brevet, aujourd'hui, on a plein de brevets. Alors, en Europe, il n'y a pas de brevet sur les variétés, mais il y a des brevets sur les gènes, leurs fonctions, des brevets sur les procédés. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce brevet, il s'étend sur la descendance. C'est-à-dire que si vous avez un tournesol qui a été pollinisé par un tournesol protégé par un brevet de pionnier, votre tournesol, il appartient à un pionnier. C'est ça que ça signifie. Hein, et ça se transmet le long des générations. Alors ça, c'est le premier type de propriété intellectuelle, le brevet, contre lequel il y a énormément de résistance. Hein, mais il y a tels intérêts aussi par derrière. Enfin, c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de résistance là-dessus. Il y a un deuxième type de propriété intellectuelle, je le cite juste. Ça fonctionne pour les végétaux. C'est ce qu'on appelle le certificat d'obtention végétale. C'est un peu différent. Il n'y a pas de propriété sur la descendance. C'est un droit de propriété quand même, avec des royalties et tout ça. Mais il n'y a pas de propriété sur la descendance, ce qui est quand même bien. Par contre, il est soumis à quelque chose de très rigide. C'est qu'il faut que ce soit des variétés pures. Hein. C'est-à-dire pas du tout de diversité. Et si bien que pour la biodiversité, c'est une catastrophe. Voilà. Donc ça, le deuxième point, c'est la confiscation juridique, par le droit, si vous voulez. Hein. Et la troisième stratégie, alors qui est connue de tout le monde, c'est le lobbying. Mais la puissance de feu des firmes, là, qui sont peu nombreuses, mais très, très puissantes, eh bien, disons qu'elle est très, très grande. Tout le monde fait du lobbying. Hein. Nous, on fait du lobbying, Greenpeace fait du lobbying, mais on n'a pas forcément les mêmes moyens, ni tout à fait les mêmes intérêts. Et là, il s'agit de peser sur la décision politique de façon à faire évoluer la réglementation. Ils la font évoluer d'ailleurs dans deux directions différentes. C'est une réglementation pour assouplir les contraintes qu'ils peuvent subir ou au contraire pour réduire encore plus les droits des paysans sur leurs semences. C'est les deux directions. Il y a des exemples qui sont tout à fait récents. C'est l'exemple de Séralini est un exemple de la façon dont les autorités ont permis d'assouplir la réglementation, par exemple. Mais comme je n'ai pas trop le temps, je ne détaille pas. On pourra en discuter tout à l'heure. Voilà, ces trois stratégies qui sont très très fortes. Hein, donc, confiscation biologique par les hybrides, confiscation juridique par les brevets et les droits de propriété intellectuelle, et enfin, le lobbying. Alors, vous me direz, les firmes, ce sont des firmes, elles essayent d'avoir des marchés et tout ça. Bon, c'est pas tellement un scoop de dire que des firmes ont des stratégies, disons, de conquête de marché et tout ça. Le problème, c'est qu'il s'agit de l'alimentation et que l'alimentation, c'est pas une marchandise comme une autre. Alors là, je pense qu'en termes de conséquences, Faut voir, il y a deux choses essentielles. On peut en imaginer d'autres, mais c'est deux choses principales. La première, c'est qu'on, comme ce sont de plus en plus des semences biotech qui mettent sur le marché, ça coûte très cher en développement, bien entendu. En recherche-développement, ça coûte très cher. Et en plus, comme il y a les droits de propriété intellectuelle, ça coûte encore plus cher. En plus, les firmes se font des procès entre elles. Et ça fait des produits très chers. Et du coup, il y a une concentration terrible du secteur industriel. Aujourd'hui, vous avez 5-6 firmes qui détiennent plus de la moitié des semences, du marché des semences. Et ils sont toujours en pleine expansion. Alors ça pose un véritable problème. Je n'ai même pas de la démocratie, mais pensez que quelques firmes détiennent le pouvoir de produire et de distribuer les principales ressources alimentaires, bah c'est littéralement terrifiant. Hein. Il faut forcément se battre contre ça, on ne peut pas accepter ça. C'est l'arme alimentaire et on ne peut pas envisager une souveraineté alimentaire si on n'a pas la souveraineté sur les semences. Ça, je pense que notre ami du Cameroun peut-être reprendra ça tout à l'heure, mais ça, c'est une chose certaine. Ça, c'est le premier point. C'est une arme terrifiante entre les mains de gens pour lesquels la seule chose qui les intéresse, c'est le profit. De toute façon, ça, c'est pas un scoop. Le deuxième point d'une autre nature, c'est celui sur la biodiversité. Parce que là, il faut être clair, il n'y a aucune commune mesure entre la biodiversité spontanément produite par des millions de paysans dans des millions de petites parcelles, des choses comme ça, et celle produite artificiellement dans des champs artificialisés par les semenciers, hein, qui travaillent sur les économies, dans la stratégie, si vous voulez, c'est l'économie d'échelle. Eux, ce qui les intéresse, c'est de produire la variété élite qu'ils vont pouvoir vendre en milliards d'exemplaires, c'est là-dessus qu'ils font de l'argent. C'est une stratégie industrielle, à la limite, je ne la critique pas, hein, c'est une stratégie classique, hein. Mais c'est complètement contraire à ce qui se passait avant, c'est-à-dire des milliers et des millions de paysans qui produisaient des semences sur un territoire donné et elles étaient différentes de celles du champ d'à côté, elles étaient diverses du champ d'à côté. Donc on a complètement renversé la vapeur et je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit que les semenciers, malgré tout ce qu'ils disent, ils ne peuvent pas ni conserver ni développer la biodiversité. Alors, je précise un peu qu'ils peuvent la conserver dans des banques. Mais ce n'est plus vraiment du vivant qu'ils conservent, hein. C'est des banques de gènes, parce qu'au bout d'un certain temps, les semences, de toute façon, ne peuvent plus germer. Voilà, ça, c'est deux conséquences qui sont terribles et pour lesquelles, eh bien, heureusement, parce que ça, c'est quand même un peu noir le tableau, mais heureusement, comme le disait Geneviève, il y a beaucoup de résistance là-dessus, un petit peu dans tous les pays. Dans les pays du Sud, le problème est différent de chez nous parce que les populations paysannes sont encore très importantes, mais elles sont aussi très, très. Elles peuvent être perméables parce que, disons, les gouvernants font pas fait ce qu'il faut. Quand ils voient les grands groupes débarquer, les Monsanto pionniers, ben, ils ont des armes convaincantes, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, si vous voulez, juste pour terminer, il y a beaucoup d'alternatives qui se font. Bon, je vous ai parlé du réseau des semences paysannes. C'est un réseau qui existe donc depuis 9 ans. Moi, je suis administrateur de ce réseau, d'ailleurs, depuis 2 ans. Et il y a beaucoup de choses qui se font. C'est à peu près 60 associations que quelques milliers de paysans et jardiniers, parce que les jardiniers jouent un rôle très important également, là-dedans. Geneviève faisait tout à l'heure appel à l'expertise citoyenne. Je pense qu'il y a au réseau une grande expertise juridique. Hein, on en connaît nettement plus que tous les politiques, ou presque tous. Hein, mais ça, ce n'est pas forcément difficile d'ailleurs. Hein, et il y a un grand savoir technique aussi, parce que ces semences, hein, celle-là, elles ne se cultivent pas tout à fait comme les autres. Et de toute façon, ce n'est pas le technicien de la coopérative qui vous dira comment faire. Donc il y a un savoir technique et bien sûr un très grand partage de savoir, de connaissances et tout ça. Alors ça c'est national. Alors à part ça, vous avez certainement déjà participé à des bourses d'échange, il y en a un petit peu partout. Et localement, moi je vais faire juste un tout petit peu de pub pour ma propre association qui s'appelle Pétaniel, qui est à la fois sur le Tarn et la Haute-Garonne. Hein, j'ai des petits documents là. Et voilà à quoi on s'amuse. Hein. Vous viendrez voir si vous voulez tout à l'heure. Ah, oui. Ce sont des blés paysans. Là, on a une collection d'une cinquantaine de variétés et vous verrez qu'ils ressemblent à la population ici. Ils sont tous différents. Si vous allez dans un champ industriel, vous verrez, ils se ressemblent tous, ce sont des clones. Alors, on essaye d'aider une paysanne qui entretient ça et qui est boulangère par ailleurs. On l'aide dans la conservation de ces variétés et c'est ouvert à tous les paysans parce que on demande, pardon, aux jardiniers, on demande aux jardiniers qui ont 1 mètre carré de terre, hein, vous voyez, c'est pas beaucoup, de cultiver 1 mètre carré de blé. Et après, on fait les battages en commun et tout ça. Et s'il y en a que ça intéresse, j'ai d'ailleurs des sachets de blé pour 1 mètre carré. Je vous remercie.